Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. On me le demande depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis plus que ravie de recueillir la parole d'un homme, d'un père, sur Prenons un café. Et pas n'importe lequel. Frédéric est un papa engagé et militant qui porte un message fort. Normaliser l'allaitement maternel et surtout montrer à quel point la place du deuxième parent est importante dans cette aventure de l'allaitement. De ce premier combat en est né un deuxième. Fred milite également pour l'allongement du congé paternité. Il fait d'ailleurs partie des signataires de la tribune sortie l'année dernière au moment de la fête des pères qui demandait cet allongement qui, même s'il n'est pas à la hauteur des espérances, aura bien lieu pour les pères à partir du mois de juillet 2021. Dans cet épisode, nous parlons allaitement, bien sûr, mais nous appuyons surtout sur l'importance de la présence du deuxième parent dans cette grande aventure qu'est la parentalité, notamment dans le postpartum immédiat. Fred nous raconte avec ses mots comment la paternité a changé sa vie, à un point qu'il n'aurait jamais imaginé. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Fred.
Salut Élise.
Bienvenue sur Prenons un café.
Merci de m'accueillir.
Mais je suis ravie de te recevoir pour la deuxième fois, même si pour les auditeurs et les auditrices, ça sera la première fois. Nous avons déjà enregistré un épisode en octobre, je crois.
Je crois, oui.
Qui s'est perdu dans les méandres du podcast.
C'est ça.
De l'internet mondial.
Ah, quel dommage, parce que c'était un très bel échange qu'on avait fait le soir, tard. Et d'ailleurs, on avait appelé ça « Prenons une tisane ».
Oui, exactement, « Prenons une tisane ».
Parce que c'était plus sûr de la tisane. Et puis, nous avions même échangé encore très longtemps, plus tard dans la soirée. Et tout ça pour apprendre que rien n'avait été enregistré.
Et, oui.
Et effectivement, c'était un petit peu frustrant.
Ben, c'est les joies du podcast. Mais oui, très frustrant d'avoir perdu cet échange. Mais en même temps, ça nous a permis de faire un préambule et ça m'a permis de te rencontrer virtuellement. Et ça, c'était plutôt chouette. Donc, on va reprendre que le positif. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler de toi, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, d'où tu nous parles et avec qui tu vis ?
Eh bien, je m'appelle Frédéric, c'est mon vrai prénom, je ne m'appelle pas vieux machin bidule. Je m'appelle Frédéric, j'ai 32 ans, j'ai une petite fille qui s'appelle Rosalie et qui a 2 ans et demi. Je suis marié avec Julie, qui elle aussi est comme moi est sur Instagram. Et nous partageons notre vie ensemble depuis maintenant 6 ans. Et nous avons eu la chance d'avoir une petite fille adorable, hein, qui est extraordinaire et très drôle, et que ma femme allaite, et allaite toujours. Et l'idée était un jour de se dire, tiens, et si je partageais mon expérience de père qui accompagne sa femme dans l'allaitement, alors pas que depuis la naissance, mais même avant, hein, dans l'idée de réfléchir à cette démarche, je me suis dit, bah, ça serait... Il faudrait que je partage ça peut-être sur Facebook, sur Instagram, je ne sais pas trop. Et puis, le support Facebook ne me plaisait pas forcément. Alors, je me suis dit, tiens, j'ai un compte Instagram qui ne sert à rien, qui s'appelle Vieux Machin Bidule, où dessus, j'entasse des photos de vieux machins, de drôles de trucs et de drôles de bidules. Alors, il y a beaucoup de photos vintage, de vieilles bagnoles, de trucs comme ça. Et je me suis dit, je vais tout enlever et je vais mettre une photo de ma femme, la première qui venait comme ça, au hasard, dans le téléphone. Une photo qui a été prise en pleine nuit, il devait être 4h du matin sur une aire d'autoroute, sur l'autoroute du soleil en partant à Nîmes. Et j'ai mis 4 hashtags et c'est parti de là. C'est parti de là mon aventure sur Instagram de ce qu'on appelle maintenant un papa allaitant.
Ouais.
Alors ça, c'est ma passion. Mon vrai métier, c'est logisticien de soins au CHU de Rouen. Je travaille à l'hôpital depuis maintenant plus de 12 ans. Et voilà, et ma deuxième passion, ce que j'appelle ça une passion, c'est pas un métier, hein. Pour moi, être Instagrammeur ou influenceur, enfin, j'aime pas le mot influenceur, c'est comme disait, je vais faire le vieux, tiens, je vais faire comme Michel Drucker. Michel Denisot qui dit les influenceurs, c'est fait pour les influençables. Et donc moi, j'évite de dire que je suis un influenceur. Je dirais plutôt que je suis un papa engagé, voilà, et que je partage au quotidien tout ce que je fais pour la parentalité et ça me va plutôt bien.
Top. Quel a été le déclic pour toi de commencer à partager ce genre de choses, enfin ta vie en fait, ta vie de papa, ta vie de papa allaitant. Pourquoi tu as décidé en fait de poster cette photo sur Instagram? Quel a été le moteur?
Je me suis beaucoup informé pendant la grossesse de Julie. Je lisais pas mal de livres, je regardais des rubriques, je regardais des émissions de télévision comme les maternelles sur la 5. Et puis, il me manquait quelque chose qui me parle directement, c'est bah, la parole d'un père, voilà, d'un papa. Alors effectivement, il y a déjà des papas hein, sur Instagram, hein, il y en a des centaines, des milliers peut-être même, mais il n'y avait pas ce que je recherchais, le côté maternant, le côté proximal, le côté bienveillance, le côté moins m'as-tu vu et je suis là pour vendre tout et n'importe quoi. Et je me suis dit, ah, c'est quand même fou, on n'arrive pas à trouver sur un réseau comme celui-ci quelque chose de qui pourrait répondre à pas toutes mes questions, mais en tout cas m'apporter un début de réponse ou un compte à aller voir, à découvrir. Et donc l'idée était de poster cette fameuse photo d'allaitement. Alors j'ai commencé à regarder un peu sur internet comment ça fonctionne Instagram. Je trouve c'est quand même une drôle de machine, voilà, avec les hashtags et tout ça. Et puis bah j'ai commencé à trouver un compte, deux comptes. Le premier était, je me souviens, je me suis abonné au compte de ma petite assiette parce que je les avais vus sur les maternelles. Après il y a eu Marie, Little Bun Pao, parce que je m'intéressais à la LSF, même si au début j'étais pas forcément pour. Et puis voilà, au fur et à mesure j'ai cliqué. Et puis, c'est des gens avec qui on peut totalement échanger et qui sont adorables. Il y en a plein d'autres. Hein. Et voilà, mais ça partait vraiment de là, de se dire, je ne trouve pas de papa qui pourrait avoir la parole que j'aimerais entendre. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas ? Je ne suis pas un grand spécialiste des réseaux sociaux, mais je pense que ce que je peux écrire peut intéresser les gens, peut les informer et peut-être leur apporter une toute petite chose qui leur manque, pas grand chose. Hein. Moi, je cherche pas à ce que ma parole soit la plus sage. Non, moi, ce que je cherche, c'est de se dire, il y a quelqu'un qui cherche une information et j'ai pu ouvrir une toute petite porte. À une personne, ça me suffit déjà. Et voilà. Et voilà pourquoi, d'un seul coup, je me suis dit, allez, on y va et je me mets sur Instagram.
Ok. C'est vrai que la première idée reçue, enfin une des premières idées reçues sur l'allaitement, c'est que ça met de côté le deuxième parent parce qu'il y a cette relation un peu exclusive qui se créerait, je le mets au conditionnel, hein, avec la maman, parce que c'est elle qui a cette fonction nourricière et de câlin et de proximité avec le bébé. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
Alors j'avais cette idée-là. Hein, je vais pas mentir, ça serait complètement dingue. J'avais cette idée de me dire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire si ma femme, si nous choisissons l'allaitement, à quoi je vais servir? Je ne peux pas te donner de biberon. Je ne peux pas. Je comprenais pas. Et puis j'ai pris beaucoup de recul sur tout ça et je me suis dit, je suis totalement convaincu que je peux faire tellement de choses à côté pour alors, je n'aime pas forcément le terme soulager, ni aider, mais en tout cas pour accompagner mon épouse dans son choix de l'allaitement, qui est un choix qui se réfléchit pour moi à deux, puisque c'est une vraie aventure, c'est quelque chose où c'est un peu comme des montagnes russes, hein. Il y a des moments où ça monte d'un grand coup, hop, ça redescend, il y a un petit looping, des fois ça se calme, tu te dis c'est bon. C'est enfin terminé. Ouf, ça repart en coup, tu vois. Bah, ça, c'est terrible, tu vois. Et là, je me suis dit, non, je suis sûr que je peux faire quelque chose. Et, mais quoi? Voilà. La vraie question, c'était, mais quoi? Et puis, alors, d'abord, il y a la logique, hein, qui arrive tout de suite. C'est-à-dire, tu sais très bien que tu vas continuer, parce que j'ai pas tant envie d'être père pour faire quelque chose dans mon foyer. Mais je savais que, voilà, tout ce que j'avais entrepris jusqu'à maintenant quand on était en couple à deux, allait continuer, allait même être augmenté, parce que, voilà, je voulais prendre en charge d'autres choses. Alors, les papiers, les comptes, les choses qu'on faisait à deux, je le faisais plus souvent tout seul au début. Et puis, après, c'est des petites choses que tu découvres au fur et à mesure. L'allaitement, ça dessèche, hein. On a la bouche complètement pâteuse, la maman. Moi, c'était des litres et des litres d'eau que j'apportais à ma femme. Et puis, il y avait l'installation, il y avait le petit coussin. Des fois, je faisais manger ma femme pendant qu'elle donnait à manger à ma fille. Enfin, pendant qu'elle donnait le sein à ma fille, je lui préparais, je me souviens, des pâtes. Et puis, je mettais une espèce de comment on appelle ça, les, pas des, c'est un bavoir, le bavoir de ma fille, ou un ange sur elle, et puis je donnais à manger à Julie, parce que pendant les pics de croissance, ben, on peut pas faire autre chose que donner le sein. Et toutes ces petites choses-là, au fur et à mesure, finalement, que j'ai appris seul, ou que j'ai pu lire, mais très peu finalement, c'est pas, il y a pas beaucoup d'informations sur ce sujet-là, hein. Et je me suis dit, mais non, je suis pas exclu de tout ça. J'ai pas cette sensation que je pouvais craindre. Je ne suis pas exclu, au contraire, j'ai l'impression d'avoir le second rôle, ce qui est très bien, hein. Moi, je m'en contente, parce que voilà, je suis le geste barrière devant ma femme déjà au début, tu sais,
c'est
quand
très,
ça allait,
très actualité.
Des critiques, c'est très actualité. Je rebondis, t'as vu, je fais des liens,
c'est
super.
Beau.
Et non, je me suis dit voilà, je suis le premier rempart, comme je dis souvent, je disais à Julie, quand Julie allaitait dans la rue, je me mettais devant elle comme un vigile. Maintenant, je le fais plus, alors que c'est complètement dingue, parce que finalement, ce serait plus maintenant où ma fille a 2 ans et demi, où là, ça pourrait commencer à sembler bizarre pour certains. Que là, je devrais me mettre en mode carapace, alors que maintenant, plus du tout, parce que je sais et je suis convaincu de ce qu'apporte le lait maternel pour ma fille. Et donc, pour moi, maintenant, c'est tout à fait naturel, vraiment naturel. C'est pas un faux naturel où tu te dis oui, c'est naturel, mais bon, je fais quand même attention à ce qui se passe dans l'environnement de mon épouse pendant l'allaitement. Non, là, c'est vraiment naturel, c'est fluide, c'est comme ça. En la famille, c'est fluide. Quand on est à l'extérieur, c'est fluide. Voilà. Et je me pose pas de questions, comme je me pose pas de questions quand je vois une maman en train de donner son biberon, donner un biberon ou un papa donner un biberon. Pour moi, tout est naturel. Il y a pas de bon ou de mauvais choix. L'important, c'est d'être bien informé.
Ouais, complètement. On va revenir un petit peu à la genèse de tout ça. Est-ce que toi, tu as toujours eu envie d'être papa ?
Alors oui, j'ai toujours voulu être papa. Ouais. C'est quelque chose qui me tenait en moi très tôt, parce que j'ai des parents jeunes. Voilà, j'ai une maman qui m'a eu à 20 ans. Alors pour moi, c'est jeune, hein. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Rosalie a la chance d'avoir une mamie une cinquantaine d'années, qui est vraiment au top du top. Enfin, des mamies, son autre mamie aussi, elle a le même âge. Et je me suis dit, j'aimerais vivre ça aussi avec ma fille, d'avoir un enfant jeune. Malheureusement, l'expérience de vie personnelle m'a amené à ne pas rencontrer la bonne personne tout de suite. Et ce qui a amené l'arrivée de Rosalie beaucoup plus tard dans ma vie, ce que par rapport à ce que moi j'envisageais. Mais pendant ce temps-là, la maturité s'est faite. Et puis aussi, j'ai trouvé la bonne personne. Je crois que c'est ça le plus important. Et voilà, tout simplement. Mais non, oui, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, qui ne m'a jamais fait peur. La seule chose qui me fait toujours peur d'ailleurs, c'est d'avoir un garçon.
Ah ouais.
J'ai cette sensation au fond de moi qui est terrible et que je n'arrive pas à me débarrasser, c'est de me dire, si j'ai un garçon, je suis heureux parce que c'est en bonne santé et j'ai la chance d'avoir un enfant, alors beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à avoir des enfants, mais j'ai cette sensation de pas arriver à lui apporter la même éducation que j'apporte à Rosalie, parce que d'abord il y a beaucoup de garçons dans notre famille, voilà, très très peu de filles. Et aussi parce que c'est difficile, hein, à l'époque où on est déjà de donner une instruction, une éducation à nos enfants non genrés, avec loin de la violence. Et je me suis dit, avec un garçon, ça me paraît beaucoup plus difficile. Donc, si un jour nous avons un deuxième enfant, je pense que je vais encore flipper une deuxième fois, parce que au fond de moi, je pense que ça va être difficile. Alors que ça se trouve, ça se passera très très bien. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression de pas arriver à maîtriser le sujet garçon.
En fait, ce qui est assez incroyable, et parce que j'ai déjà eu cette conversation, c'est pas le premier à me dire ça, notamment avec Cédric de Papatriarca, qui m'avait un peu.
On a je ne connais pas ce jeune homme.
Non, c'est quelqu'un qu'on connaît peu, hein, finalement, qui ne fait pas du tout partie de ce cercle Instagram et podcast du tout. Et en fait, moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'on trouve, parce que j'ai le même sentiment que toi, hein, par rapport à l'éducation d'une fille ou d'un garçon. Moi, je savais, enfin, je voulais au plus profond de moi une petite fille et je suis ravie. Mais la raison était que je trouve ça plus simple d'apprendre à une petite fille à se défendre que d'apprendre à un garçon à ne pas être un agresseur. C'est quand même assez assez fort, mine de rien, parce que Parce que, enfin, on implique déjà de base qu'un garçon est forcément un agresseur. Et mais parce que moi, ce que je trouve difficile dans ça, c'est que je pourrais donner l'éducation que je veux. Je suis pas la société. Je suis pas ce qu'il y a autour, en fait. Donc moi, je trouve personnellement plus facile d'apprendre à une fille à se défendre qu'à un garçon de ne pas attaquer, en fait, finalement. Est-ce que tu as ce sentiment-là ? Est-ce que ça part de là aussi chez toi ?
Ça part totalement de là, c'est ça, exactement. C'est cette espèce de déconstruction qu'on essaye de tous, en tout cas la plupart, de détruire tout ce que l'on peut imaginer sur ce que tu disais. Et vraiment, j'ai cette difficulté de... Je sais pas, tu vois, je me vois mal avoir un petit garçon... et tu vois, quand on joue à la bagarre, je joue à la bagarre avec Rosalie, tu vois, on fait des galipettes, on fait des taquineries. Moi, je fais souvent, je fais souvent jouer au rugby avec elle, tu vois, je parle de caramel, je parle de cravate, des trucs qui existent en vrai. Et je me dis, tu vois, le truc, c'est que si je me vois pas ne pas dire ça non plus à mon fils, si un jour j'avais un fils. Mais d'un côté, c'est que lui, comment ça va être interprété, tu vois? C'est ça qui est assez difficile. Et je travaille dessus, je travaille sur moi déjà, c'est déjà pas mal, pour essayer de m'enlever ces idées-là et d'essayer de construire autre chose différemment. Et je pense que c'est possible. Mais voilà, ça va demander encore du travail. Mais d'être parent, c'est pas si simple que ça.
Non, c'est pas simple du tout. Quand vous avez appris la grossesse de Julie, quelle a été ta réaction à toi ? Est-ce que tu étais fou de joie ? Est-ce que tu as pris peur ? Quelles ont été les premières choses que toi, tu as mises en place en tant que futur papa ?
Alors, déjà, la première chose que... Je crois que je ne l'ai jamais raconté. Peut-être j'ai deux, trois amis qui doivent le savoir, mais quand Julie m'a dit « je suis enceinte », le premier truc que j'ai dit, c'est « putain, je suis pas stérile ». C'est le premier truc, tu vois.
Non, mais bon, c'était quelque chose qui t'inquiétait ?
Oui et non, mais oui, ça m'inquiétait. Ouais, ça m'inquiétait parce que quand tu regardes autour de toi, il y a des gens, des fois, qui ont des difficultés d'avoir des enfants, qui n'est pas forcément une difficulté due à un état physique, mais voilà, manque de pas de chance, tu vois le truc. Et le premier truc que j'ai dit, c'est ça. Je me suis dit, putain, merde, je suis pas stérile. C'est complètement con quand même comme réaction. Mais après, comment te dire, tout de suite, alors il y a rien de concret parce que pour moi, il y a rien de visible, il y a rien de. Alors après, le concret est vite arrivé. Hein. Du moment que Julie a commencé à être malade, là, le concret, il était là. Il n'a pas mis 50 ans à arriver. La tête dans la cuvette et le Fredo qui tire les cheveux. Non, ça c'était du concret. À courir chercher. En plein mois de décembre, Julie voulait manger des pamplemousses. J'ai jamais trouvé de pamplemousses. À 7h du soir, avant de prendre sa garde, je dis, mais chérie, j'ai pas trouvé de pamplemousses. J'ai trouvé que des mandarines. Elle me dit, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Et le lendemain matin, elle est partie faire sa garde de nuit de 12h. Elle est rentrée. Moi, je me suis levé. J'ai été à Carrefour. J'ai acheté 6 ou 7 pamplemousses. La peau des fesses, parce que c'est, voilà.
La saison. Hein.
Et elle se lève et elle me dit, j'ai plus envie de pamplemousses.
Alors tout ça, c'est pas un cliché. Ces envies de femmes enceintes, on parle souvent des fraises en plein mois de décembre.
Ah, il y a les envies, mais il y a surtout le plus envie. Mmh. Et ça, c'était très surprenant parce que Julie s'est mise à ne plus aimer le café, alors qu'elle adore ça, elle en boit des bros entiers. Elle s'est mise à plus aimer le café. Alors les odeurs, ça arrive à beaucoup de femmes enceintes. Hein. Les odeurs, tout ça, elle a beaucoup de mal. Alors que, c'était très surprenant sur beaucoup de sujets. Et puis, au fur et à mesure que la grossesse a avancé, après il y a eu l'annonce aux parents, l'annonce aux tontons, et puis après l'annonce définitive à tout le monde. C'était complètement fou, c'était complètement dingue parce que voilà, on s'est dit avec Julie, notre fille va naître au mois d'août. Et pour nous, le mois d'août c'est important parce que on s'est marié au mois d'août, je suis né au mois d'août, et on s'est dit, la coquine, si elle arrive un poil plus tôt, il y a mon anniversaire et il y a notre anniversaire de mariage. Alors si, voilà, là, ça va être chaud patate, tu vois. Et tout le long de la grossesse, ça nous a tenu. On s'est dit, mais quand est-ce qu'elle va arriver ? Quand est-ce qu'elle va choisir la date ? Parce que c'est elle qui choisit le moment où elle va arriver. Qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Et alors là, ça a été vraiment extraordinaire parce que Julie a eu les premières vraies contractions le jour de mon anniversaire. Alors là, on s'est dit, pois, 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 pois. Non, 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 ça serait dommage qu'elle arrive le jour de mon anniversaire. Je préfère chacun et sa date, c'est mieux. Attendons le lendemain. Et puis, Julie, il y a eu plusieurs jours de contractions intenses, très, très difficiles, jusqu'au 18 août, où là, vraiment, les contractions, là, elles n'étaient plus du tout supportables. Et donc, nous avons été au CHU. Il était déjà 20 heures. Et j'ai dit à Julie, une fois qu'on était installé dans la salle d'accouchement, j'ai dit, regarde la pendule. Passé minuit, elle va naître le jour de notre anniversaire de mariage. Un an après, jour pour jour. C'est quand même fou, c'est pas possible. Elle a choisi cette date, le 19. Le 19 est très important chez nous. Tout se passe en 19. Et j'ai dit, elle va choisir le 19. Et c'est ce qui s'est passé. Elle est née le jour de notre anniversaire de mariage. Un an jour pour jour, hein, elle était là avec nous. Et ça, c'est même pas magique, ça. C'est complètement fou.
C'est fou, ouais. C'est fou parce que le moment où toi, tu as dit oui un an plus tôt, tu t'imaginais pas du tout que 12 mois pile poil tu allais connaître une autre forme d'émotion, mine de rien.
C'est complètement, ah oui, puis une belle émotion, hein, une émotion que je souhaite à tout le monde, parce que c'est très très intense au point de vue émotionnel quand on s'est préparé pendant de longs mois, des longs mois qui n'ont pas été forcément faciles, parce que j'avais à ce moment-là des gros problèmes de santé avec mon dos, j'ai été hospitalisé pendant un mois, j'ai pas vu Julie, j'ai pas pu sentir les premiers coups dans le ventre parce que j'étais pas à la maison. Tout ça, c'était assez difficile. Ça durait qu'un mois, heureusement, mais ça, c'est toujours le mois de trop, si tu veux. Mais après, on a fait de l'autonomie pendant la grossesse. Alors ça nous a énormément aidé. Ça, je le conseille à beaucoup de parents qui réfléchissent à quelque chose à faire pendant la grossesse. Alors, ben là, il y a le champ prénatal, il y a la piscine, il y a l'acupuncture, il y a un paquet de trucs. Mais l'autonomie, alors ça, je trouve que pour un papa qui souhaite vivre la grossesse de sa femme pleinement, c'est ça qu'il faut faire. L'autonomie, c'est topissime.
Ça t'a, toi, permis d'entrer dans ton rôle de futur père plus rapidement, plus facilement ?
Oui, oui, parce que d'abord, alors tout ce qui est point de vue physiologie, bon, Julie est sage-femme, donc les explications sur qu'est-ce qui va se passer où, comment le bébé va arriver, tout ça, tous ces renseignements-là, ça je les avais en direct, j'avais l'encyclopédie médicale avec moi, donc ça ne servait à rien. Visiter la mater, bah, je la connaissais, hein, je travaille dans le même hôpital, on va se voir, je connais où est la salle, je sais où sont même les toilettes, donc ça ne sert absolument à rien. Je sais où est la machine à café, mais je me suis dit, il faut quelque chose de concret et qui puisse vraiment m'apporter ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire d'être rassuré, voilà. Et donc, on a eu une adresse d'une sage-femme qui fait de l'autonomie à Rouen et qui au début, alors je me suis laissé un peu porter par la chose parce que tu arrives chez une sage-femme un peu 68-art, baba cool, avec des autocollants sur sa boîte aux lettres non nucléaire, t'accueille en sarouel, ça sent le patchouli, tu te dis putain, là où est-ce que je suis tombé? Moi, je suis quelqu'un, tu sais, qui est plutôt assez droit, alors il y a des choses conventionnelles comme ça où j'ai un peu de mal, tu vois. Je me suis dit, mon Dieu, je suis où? Sans forcément, oui, je jugeais, si tu veux, mais tout ça, justement, maintenant avec le recul, tout ça, je le fais plus parce que je me laisse parfois porter et c'est mieux aussi.
Tu as cheminé.
On ne sait pas ce qui se passe derrière une porte. Mais derrière cette porte-là, voilà, dans cette espèce de capharnaüm de tissu, il y avait de tout dans cette pièce, une pièce toute petite. Mais alors, c'est là que j'ai pu découvrir les massages, sentir ma fille la première fois dans le creux de ma main quand elle m'a dit appelez votre fille. Je me suis dit, mais l'autre, elle est cinglée, elle a 6 mois, qu'est-ce que tu veux que je l'appelle? Elle n'a pas le wifi encore à l'intérieur, tu vois. J'ai dit bon, bah, on va essayer, tu vois, tu te laisses un peu amener. La première séance, tu sors, tu te dis waouh, là je sais pas où je suis tombé, mais putain, je suis tombé, hein. Et puis finalement, la deuxième séance, là tu te laisses complètement porter et tu découvres que tu peux créer déjà une communication avec ton bébé, avec tes mains, parce que l'autonomie, c'est la science du toucher, hein, c'est, voilà. Tu peux créer déjà quelque chose avec ton enfant, un lien, tu lui apportes déjà une sécurité affective. Ce mot-là, je m'en souviendrai toujours quand elle m'a dit ça, vous lui apportez déjà une sécurité affective, vous lui donnez déjà de la confiance. Je me suis dit, c'est ça que je veux. Moi, au quotidien, ce que je veux, c'est pas que ma fille ait peur de moi, c'est pas que ma fille se pose la question à quel moment la main va tomber sur ses joues ou sur ses fesses, je veux qu'elle ait confiance en moi. Et bien, c'est exactement ce que ça m'a apporté. je me suis dit, je vais lui faire comprendre par le toucher, par ma voix, par le contact physique avec sa maman lors de massages à des endroits précis, au niveau du bassin, du ventre, que je suis là. Je suis déjà là. Il y a maman et il y a papa. Alors, ça marche aussi s'il y a une deuxième maman, je précise. Hein, ça marche, mais il y a deux personnes bien distinctes. Il y a celle qui me porte, celle qui va me donner la vie, et celui qui va être à la sortie et qui va être là aussi. Même si lui, techniquement, tout de suite, ne fait pas grand-chose, il m'apporte déjà une sécurité affective. Je connais sa voix. Je peux déjà avoir confiance en lui. Et je ne sais plus combien on a fait de séances, 5, 6, peut-être 7, je ne sais plus. Parce que c'était, je ne les comptais plus parce que c'était vraiment un moment qu'on attendait, vraiment. Et puis voilà, quand un jour elle m'a expliqué, la sage-femme elle me dit, je vais vous raconter une histoire. Elle me dit, vous voyez, je suis une maman là, et ils ont déjà un enfant. Et ils ont fait l'autonomie tous ensemble. Et le bébé est né. Et quand le bébé est né, le petit garçon a dit à sa maman, est-ce que tu peux me laisser seul avec le bébé dans la pièce? J'ai quelque chose à lui dire. Alors là, mes parents étaient un petit peu interloqués. Ils se disent, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, laissons-en faire, on va voir. Il laisse le bébé dans une chambre et l'enfant rentre. L'enfant devait avoir 3 ans, c'est-à-dire l'âge où, malheureusement, on commence à oublier la vie intra-utérine, les premiers souvenirs, et pour en créer des nouveaux, eux, on va s'en souvenir. Mais tout ce qui est avant, on commence à perdre le fil. Et le petit garçon dit à sa petite sœur, raconte-moi comment c'est encore à l'intérieur. Et là, tu te dis, ces émotions, je te jure, j'en ai encore les larmes aux yeux parce que c'était dingue. Et je me dis, c'est pas fou ce qu'on fait. Hein. On n'est pas là en train de faire esprit, es-tu là? On parle d'humain, on parle de quelque chose de vrai, de concret. Et c'est là que je dis, voilà, ça c'est ce qui m'a aidé le plus pendant cette grossesse, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est ce qui avec Julie nous a tenu l'un et l'autre avec passion pendant des mois. Et je vraiment, si Julie un jour est enceinte une deuxième fois, je veux qu'on fasse cette aventure là avec Rosalie, parce que je pense que ça va être encore un truc de dingue, parce que voilà quoi, c'est vraiment quelque chose à vivre. Donc s'il y en a qui ont vécu l'autonomie, je suis sûr qu'ils comprendront ce que je suis en train de dire. Certains vont dire il est fou, mais il est peut-être pas si fou que ça parce qu'il le conseille, donc on sait jamais, on pourrait peut-être essayer, mais vraiment ça c'était génial.
En fait, j'ai l'impression avec ce que tu racontes de l'autonomie que ça t'aide à te reconnecter à tes instincts finalement,
tes instincts. Mmh. Faire confiance, apporter la confiance, s'écouter soi-même. Alors, ça ne demande pas une préparation physique comme le yoga. Tu peux commencer, se faire confiance à soi-même. Je pense que c'est la base déjà de l'autonomie et j'en suis vraiment ravi de ça.
Et de la parentalité, en fait, finalement, parce que c'est tout ce dont tu as besoin quand tu deviens parent, de t'écouter, bien de sûr. Te faire confiance et d'entrer dans cette bulle tous les trois où, en fait, c'est vous qui savez, c'est les parents qui savent répondre aux besoins de leurs enfants. C'est tout ça. Et je pense que, ouais, d'après ce que tu dis, l'autonomie permet de connaître ces bases-là et de les toucher un peu du doigt. C'est beau. Moi aussi, j'ai été assez émue quand tu racontais l'histoire
de ce garçon. La sage-femme disait « Les parents, vous êtes le soleil de vos enfants le jour où il y a de la tempête. » C'est-à-dire que les nuages vont passer, il va y avoir un coup de vent, les nuages passeront d'une manière ou d'une autre. Hein. Une tempête, ça ne dure pas. Mais vous êtes toujours le soleil. C'est-à-dire, c'est un peu comme le phare, hein. Quand tu es en pleine mer et qu'il y a la tempête, tu sais qu'au bout, il y a le port. Ben, c'est exactement la même chose. Elle dit, vous êtes le soleil de vos enfants parce que c'est vous l'essentiel à leurs yeux. Et c'est vrai que c'était beau, hein. C'était très, très joli. Et franchement, j'en ressors grandi de tout ça. Mais j'ai vraiment, et je le partage souvent, j'en parle souvent sur Instagram, parce que je parle d'allaitement, mais je parle plein d'autres choses. Mais j'en parle quand même régulièrement. Je trouve que c'est une très belle préparation à la grossesse.
Je vais passer sur la naissance de Rosalie à la naissance donc de votre fille. Est-ce que je vais passer les détails de l'accouchement parce que je pense que tu en as déjà parlé, peut-être. Est-ce que toi, tu as pu rester avec ta femme et ta fille assez longtemps ou est-ce que tu as dû retourner au travail vite?
Alors, moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu un accident de travail grave, une année avant l'arrivée de Rosalie, et ce qui m'a fait rester chez moi pendant un peu plus de 2 ans. Malheureusement, j'ai pas pu reprendre le travail tout de suite à l'hôpital, et est tombée la grossesse à ce moment-là. Et est arrivée Rosalie, et est arrivée cette réalité que beaucoup de papas connaissent, c'est-à-dire au bout de 11 jours, eh bien salut les gars, je reprends mon baluchon, ma gamelle et je repars travailler, qu'importe mon métier. Et moi, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu ça et j'ai vite pris conscience que je faisais partie de privilégiés puisque j'ai pu rester avec ma fille jusqu'à l'âge de 5 mois. Et ensuite, j'ai eu un mi-temps pendant 1 an. Donc, autant te dire que j'ai pas loupé grand-grand-chose. J'étais là au quotidien. Pour les bons et les mauvais moments, on va déjà parler des bons, hein. Les bons, bah, c'est bien sûr de voir évoluer son enfant, parce qu'on a trop tendance à croire que un bébé, c'est pas très intéressant avant que ça marche, avant que ça parle, ce qui est complètement faux. Je dis souvent stop à ces idées-là parce que c'est faux, c'est faux. Un nourrisson, un bébé, ça fait pas que manger et dormir. Il y a d'autres choses. Il y a des moments d'éveil. Ces moments d'éveil sont précieux, mais alors comme il n'y a pas. Je me souviens avoir passé des heures allongées on avait fait Julie avait fait en tissu avec un matelas, un grand tapis allongé qui, elle paraissait minuscule au milieu. Elle faisait que 2,6 kg, hein,
Ah
donc elle n'était
ouais.
pas très grosse. Hein. Elle paraissait minuscule au milieu. Et de la voir babiller, ouvrir les yeux, être intéressée par tous les bruits qui tournent autour, le chat qui ronronne, le petit truc qui fait du bruit, tu vois. Et tout ça, c'était merveilleux. Et pendant les 5 mois où j'ai totalement été à la maison, ces moments-là, moi, je les ai, mais alors, je les ai gardés précieusement au fond de moi parce que c'était magique, c'était super. Je l'ai vu évoluer, je l'ai vu grandir, j'ai pu l'habiller, faire le bain, puis Julie a repris le travail. Et pour le côté moins drôle, c'est là où on se rend compte que la présence du conjoint après l'accouchement, donc pendant le postpartum, est très importante puisque Julie a commencé à montrer les premiers signes d'une dépression postpartum,
D'accord.
très importante. Alors, on pourrait rajouter à ça, par-dessus ça, un burn-out professionnel. Et c'est là où je me suis dit, heureusement que j'étais là. Elle le dit souvent, heureusement que tu étais là aussi. Parce que les premiers signes où ça ne va pas, on a pu prendre le problème à bras le corps, même si je pense qu'il était trop tard, que le mal était déjà fait. J'étais là et je me suis dit voilà une raison de plus, si il y en a encore une à rajouter, que la présence d'un conjoint est indispensable pour moi, à mes yeux, après l'accouchement de son épouse, de sa femme, de son conjoint, parce que il y a l'aspect matériel, il y a l'aspect technique de la maison, hein, le ménage, le repassage, le repas, et puis après il y a tout le reste, hein, il y a le couple, il y a l'enfant à s'occuper, bien sûr, il y a la vie de famille, et puis bah, des détails comme celui-ci, hein, qui est la dépression postpartum. Après, il y a plein d'autres choses dont on peut encore parler. Et je me suis dit, voilà, ma présence a servi à quelque chose encore plus que ce que je ne pensais. Et je ne pensais pas qu'un jour, de cette réflexion allait m'emmener jusqu'à vraiment m'engager dans un, alors je peux pas appeler ça du militantisme, mais à m'engager pour l'allongement du congé paternité. Parce que je suis convaincu que la présence d'un père, d'un conjoint, d'une conjointe, d'un parent adoptant, c'est auprès de son enfant, c'est pas auprès de son employeur. L'employeur, il y a peut-être des employeurs, hein, qui vont m'écouter. Bah, je suis désolé, les gars, mais la réalité, c'est ça. Voilà. Alors après, il y a des gens qui diront oui, mais moi j'aime mon travail, c'est un choix. Mais je trouve que quand on a le choix de faire un choix, voilà. Mais là, le problème, c'est que nous, jusqu'à maintenant, on n'avait pas le choix de faire un choix. Donc, voilà, je ne savais pas que ça allait m'emmener plus loin, cette réflexion-là. Mais voilà, donc j'ai pu profiter de Rosalie pendant 5 mois, puis après, pendant une année entière en mi-temps. Et ça, c'était génial, hein, parce que bah, le matin, Rosalie, je la laissais un tout petit peu à la crèche. Et puis, bah, le reste de la journée, elle était avec moi ou avec sa maman. Et ça, c'était super. Et c'est ce qui a permis aussi pouvoir continuer un allaitement serein, un allaitement cool. Alors voilà, Julie a tiré son lait, j'ai donné le lait à Rosalie, on a fait toute cette aventure là à deux et c'est génial.
Ouais.
Mais ouais, franchement, je regrette pas.
Ouais, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Si la question d'un deuxième enfant se posait dans votre couple, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment vous mettriez en place une présence? Est-ce que toi, tu voudrais encore être à la maison? Comment ça se passerait éventuellement?
Bah, c'est ça qui me rend triste. C'est que je me dis, malheureusement, je pense pas avoir un deuxième accident comme je l'ai eu. Donc, pas cette opportunité une deuxième fois de pouvoir être autant de temps à la maison. Et c'est là où ça me fait flipper, parce que je me dis, c'est un peu dégueulasse, quoi. Rosalie a eu la chance de m'avoir et mon deuxième enfant n'aura pas cette chance-là. Et je suis même quasiment sûr qu'il ne l'aura pas. Hein. Et que faire? Que faire? Donc, nous avons discuté avec Julie. Professionnellement, elle, Julie, gagne un peu plus sa vie que moi. Mais même si, voilà, dans la situation actuelle, je pense qu'elle, elle prendra par exemple 80%. Moi, pour le moment, tout de suite, alors là, si ça se passe tout de suite, là, en temps de Covid à l'hôpital, clairement, je n'aurai pas de 50%. On va pas se mentir. La réalité médicale de la pandémie ne fait que, à part rester à l'hôpital, je ne fais pas grand chose d'autre. J'aimerais revivre ça. Mais je suis pas sûr que ça puisse arriver. Et ça, c'est ça qui me rend terriblement triste. Et c'est ça qui me fait que je me suis vraiment engagé dans l'allongement du congé paternité.
Ouais. Oui, parce que pour resituer, tu as fait partie d'un collectif de papas qui, l'année dernière, au moment de la fête des pères, et ça coïncide plus ou moins avec la sortie de cet épisode, puisqu'il sortira fin mai, début juin. Donc on y sera, ça fera un an. Tu t'es engagé avec un collectif de papas pour faire vous avez fait une tribune, en fait. Ça consistait en quoi? Tu peux nous rappeler?
Bah, la tribune était assez simple, hein, voilà, hein, c'est de regrouper d'abord, on était une dizaine de papas, des papas de tout horizon, hein, il y a des papas entrepreneurs, des papas qui travaillent en usine, je crois, il y a des papas comme moi qui ont eu 5 mois, d'autres qui ont eu plus, qui ont eu un congé dans un autre pays, certains ont abandonné leurs études de médecine pour garder leur enfant, il y a des couples homoparentales, il y a un couple homoparental, tu vois, c'est voilà, il y a vraiment un collectif assez complet sur la chose, et on s'est dit, c'est un sujet qui est souvent, pas trop souvent abordé, mais quand il est abordé, c'est un sujet qui est abordé par un public féminin.
Exactement.
Et je pense que les principaux concernés pourraient aussi prendre la parole. Et nous avons écrit une tribune qui était relativement assez simple, hein, puisqu'elle disait que voilà, on apportait des preuves écrites que la présence d'un conjoint lors d'un congé paternité était très importante, plus que ce qu'on en pensait. Alors, on est parti sur le hashtag un mois minimum, mais nous, on avait forcément envie de plus parce que on savait que le président de la République avait commandé un rapport présidé par Boris Cyrulnik avec une quantité extraordinaire de professionnels de santé connus et reconnus et qu'on attendait avec impatience ce résultat-là, de se dire ce groupe de professionnels, de médecins, sages-femmes, psychologues, neuropsychiatres, pédopsychiatres, auxiliaires de puériculture et même des gens qui ont été envoyés dans d'autres pays pour voir comment ça se passait en Suède, tout ça. Ces gens-là vont nous apporter de l'eau à mettre dans notre moulin. Hein. Voilà, ça ne peut que apporter quelque chose. Mais voilà, on a écrit cette tribune et puis elle a été publiée dans un média et puis aussitôt effet boule de neige, hein, ça a été très rapide, bien sûr, hein, ça tombe au moment de la fête des pères, hein, c'était pas innocent. Voilà, on est passé dans de nombreux médias jusqu'à cette surprise de recevoir un mail ou un appel, je ne sais plus, je crois que ça devait être un mail du secrétariat du ministère d'Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance. Et qui voulait partager avec nous le jour de la fête des pères, une conférence Zoom ensemble où on était amené à apporter chacun notre pierre à l'édifice, notre parole. J'ai l'impression que notre parole pouvait compter à ce moment-là. Donc le dimanche après-midi, eh bien, nous avons passé l'après-midi, une partie de l'après-midi avec un ministre, parce qu'un secrétaire d'État c'est un ministre, avec un ministre où on a pu échanger avec lui. Alors là, face à face, enfin, face cam l'un à l'autre, et puis après aussi par message, parce que on envoyait des messages aussi à son cabinet et à lui directement pendant de nombreuses semaines, en expliquant, ben voilà, à nous tous, les intérêts nationaux, les intérêts parentaux que ça allait pouvoir apporter. Et c'était très intéressant, c'était vraiment très intéressant. Chacun à sa manière a pu s'exprimer et j'ai l'impression que nous avons été écoutés. Après, une fois que la décision a été apportée et l'annonce faite au mois de septembre par le président de la République, alors pour certains du collectif, ils étaient contents parce qu'on avait fait un pas en avant. Pour certains, d'autres comme moi, beaucoup moins. Je pense que le mot de Gabriel Attal, qui est le porte-parole du gouvernement, qui dit que nous sommes sur c'est une révolution. Non, c'est pas une révolution, c'est une évolution, une toute petite évolution, parce que voilà, on ne fait que doubler ce qui existe déjà, donc c'est pas foufou. Surtout quand on sait que finalement, le résultat du rapport préconisait 9 semaines. Je trouve ça très triste d'utiliser l'argent du contribuable, parce que ça coûte très cher de faire des rapports. Des rapports, il y en a des dizaines qui arrivent par jour dans les ministères, n'importe lequel ministère. Un rapport coûte des millions, ça coûte très très cher. Et là, ça a dû coûter cher, comme d'autres rapports, et malheureusement, on n'a pas envie de le suivre. C'est un peu dommage, une fois de plus, on est encore les mauvais élèves de l'Europe et encore les mauvais élèves de d'autres pays, hors Union européenne, parce qu'on n'a pas encore envie réellement d'avoir une vraie politique de famille en France, une politique familiale, une politique de parentale, et que une fois de plus, les enfants vont encore être la dernière roue du carrosse. Et c'est vrai que ça fait un petit peu mal, parce que oui, c'est une évolution, on s'en réjouit, on se dit c'est bien, tant mieux, ça avance, mais ça avance tout doucement, quoi. C'est pas assez rapide, c'est pas assez long. On ne prend pas au sérieux ce qui a été écrit dans ce rapport, on ne prend pas au sérieux les besoins, les vrais besoins des familles. Et là, je me dis, non, il faut continuer. Alors, même si aujourd'hui, voilà, on ne voit rien physiquement de ce qui se passe, j'espère, dans les mois à venir, avec Cédric, avec Samuel, le collectif des papas, ceux qui voudront, peut-être qu'on se remettra le pied à l'étrier et se dire, allez, on remet ça, parce qu'en plus, on va pas se mentir, il y a les élections l'année prochaine.
C'est ça. Donc, voilà. C'est un peu le moment d'en profiter aussi.
Alors, qu'on le veuille ou non, parce que certains, moi, le premier, je pensais que c'était un sujet très populaire et qui allait faire l'unanimité, mais ce n'est pas le cas, parce que voilà, il y a des vieux de la vieille, hein, comme j'appelle souvent ça, qui sont convaincus que avant c'était mieux. Ce que je leur réponds souvent, c'est vous pissiez au fond du jardin, est-ce que vous le referiez aujourd'hui? Donc non, la réalité c'est ça. On se passerait pas de wifi, on se passerait pas de téléphone. Donc il y a un moment, non mais la réalité est là, Élise.
J'avais entendu cette expression, c'est drôle.
Mais oui, tu vas pas retourner au fond de ton jardin dans le cabanon, tu vois.
Non.
En pleine nuit, c'est pas possible. Le pot de chambre, on peut pas y revenir. Donc voilà, il y a des choses. Voilà. Après, il y a l'aspect financier où on entend souvent, oui, mais c'est pas le moment. Mais la réalité c'est.
C'est jamais le moment.
Quel est le bon moment? Quel est le bon moment? Là, oui, ça tombe en plein milieu d'une pandémie où on est en train de dépenser des millions pour sauver des professions dans notre pays. Mais d'ailleurs, l'argent, je pense, j'en suis convaincu, je ne rentre pas dans une politique très précise, mais l'argent est là, c'est possible. Il y a des choses qu'on peut mettre en place. Et donc, c'est pas une excuse, cette histoire d'argent, cette histoire de c'est pas le moment. Ça sera jamais le bon moment. Parce que ça veut dire que les enfants d'aujourd'hui qui vont être les adultes de demain n'ont pas le droit à avoir eux aussi leur chance. N'ont pas le droit de pouvoir grandir, se construire dans les premiers mois de leur vie auprès de leurs parents, tout simplement parce que des gens dans un hémicycle ont décidé que ça allait pas se faire parce que eux, c'est les vieux de la vieille. Parce qu'on va pas se mentir, je sais pas quel est le taux d'âge au Sénat et à l'Assemblée nationale, mais c'est loin d'être des jeunes parents. Moi, nous avons, hein, avec le collectif des papas, rencontré des députés. Moi, j'ai rencontré le premier député de la première circonscription de Normandie, monsieur Adam. Moi, je lui ai dit, c'est quelqu'un de jeune. Et moi, je lui ai dit, vous vous rendez compte, là, on est sur une vraie loi populaire, une loi qui pourrait faire bouger les choses. bouger les choses pour ceux qui ont envie que ça bouge. Parce que, bien sûr, j'imagine qu'il y a des... Moi, on a reçu, je sais plus, 300 ou 400 témoignages de papa, mais il y a aussi beaucoup de mamans, parce que, bon, on va pas se mentir, mon compte Instagram, je dois avoir 95% de femmes, le reste, ce sont des hommes, même si ça augmente dans le sens où les hommes viennent de plus en plus s'abonner à mon compte, et j'en suis ravi, parce que, justement, le message passe directement, tu vois, on passe pas, il n'y a pas d'échange comme ça. Et je me dis, voilà, il faut maintenant se dire que oui, il y a un intérêt. Donc, il y a des femmes qui nous ont dit, ouais, mais vous vous rendez compte, si vous commencez à donner des congés d'un mois, alors le père, il va aller à la pêche, il va aller à la chasse, il va aller faire du black, il va faire du placo avec les copains, il va jouer à la console. Pour lui, ça va être les vacances. Alors là, à ce moment-là, moi, je disais souvent la même chose. Je disais, attendez, stop. Là, on est en train de tout mélanger. Il y a la parentalité et puis il y a votre couple. Alors après, je suis pas méchant, mais je vais te dire, si tu sais avec qui tu as fait ton enfant quand même. Donc, à un moment, voilà, c'est quand même concret, hein. Donc, à chacun de prendre ses responsabilités et de faire ses choix. Mais si on peut avoir le choix de pouvoir rester plus longtemps avec son enfant, moi, personnellement, je le prends. Après, si la personne ne souhaite pas le prendre, comme les mamans, il y a peut-être des mamans qui ne souhaiteraient pas avoir 6 mois de congé si elles avaient 6 mois de congé. Parce que professionnellement, elles sont en pleine carrière montante, je peux l'entendre. Mais c'est juste qu'il faut que nous ayons le choix. Et ce n'est pas un truc de cassos. C'est pas un truc de aller encore un truc supplémentaire pour les gens qui n'ont pas envie de bosser. Non, un congé, pour avoir un congé, il faut déjà travailler. C'est là-bas. C'est le bout du bout. Mais c'est pas un truc de feignasse. Peut-être qu'il y aura des dérives. Malheureusement, c'est comme dans toutes les lois, dans tout ce qu'on peut avoir comme acquis sociaux. Mais la plupart, ne va pas y avoir de dérives. Au contraire.
Oui, et puis tu vois, tu parlais de cette idée de quand on parle de congé, parce que tu vois, pour le coup, moi, ce genre de réflexion, je me les suis prise parce qu'il y a 2 ou 3 ans, j'avais fait un post sur les réseaux sociaux à l'occasion du 8 mars, donc de la journée des droits des femmes. J'avais écrit qu'en fait, une des plus grandes avancées pour le droit des femmes, ça serait d'accorder un congé aux jeunes papas. Et parce que moi, je trouvais que ça permettait énormément de choses et que ça permettait de l'égalité au sein de l'univers professionnel et que ça permettait vraiment de remettre les hommes au sein du foyer qui se rendent compte de la réalité que vivent la plupart des femmes, en fait, au sein du foyer. Et en fait, je m'étais pris des réponses disant « Oui, enfin, t'as rien compris un petit peu au problème, là, parce que tu veux donner des vacances aux hommes et tu te bats pour les droits des femmes et en fait, tu veux donner des vacances aux hommes. » Moi, je leur avais répondu « Mais en fait, c'est vous qui n'avez pas compris. C'est qu'on n'est pas en train de donner des vacances, comme tu l'expliquais. Un congé paternité, c'est pas donner l'occasion aux parents, aux deuxièmes parents de vaquer à ces occupations qui seraient en dehors du schéma familial, en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est de venir en soutien et de... On a tellement besoin en tant que femme en postpartum immédiat d'un soutien qu'en fait c'est ça qu'on demande, c'est juste ça qu'on demande.
C'est ça.
Et ça, c'est pas possible aujourd'hui. Donc moi, je te rejoins sur ce combat-là et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, en France, dans notre société, la valeur travail est mise au-dessus de la valeur familiale. Et c'est en fait, je crois, le fond du problème et je crois que c'est cette pensée-là qu'il faudrait remodeler, qu'il faudrait revoir et se dire qu'en fait, oui, le travail, c'est important, mais la famille aussi, la vie privée, c'est important. Parce que dans le monde du travail, on t'envoie souvent ce message-là qu'en fait, si tu penses à ta vie privée, si tu penses à ta vie de famille, tu es moins bon. En fait, tu es dévalorisé dans le milieu du travail et que la valeur travail ouais, prime sur toutes les autres valeurs, en fait. Parce que quand on rencontre quelqu'un, on lui demande généralement « tu fais quoi dans la vie ?» On ne te demande pas si tu es heureux, on ne te demande pas si tu vas bien ou alors vite fait, tu sais, mais un peu superficiellement. On ne te demande pas comment ça se passe dans ton foyer, on te demande ce que tu fais dans la vie. Meaning, quel est ton métier ? Parce que c'est à partir de ça qu'on va juger de ta valeur. Et moi, je trouve que c'est ça, en fait, finalement, le fond du problème. Et c'est ça qu'il faudrait changer. Et tu parlais tout à l'heure de l'évolution, qui n'est pas une révolution, du coup, du congé paternité. Aujourd'hui, à partir de juillet, comment ça se passe pour les jeunes papas ?
Ça se passe bien.
Ça se passe mieux, on va dire.
Alors, ça va bien se passer pour 2 choses. La première, parce qu'il faut que les papas soient convaincus et aussi que les mamans soient convaincues que le conjoint a une réelle place. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qui est plus politique, c'est qu'effectivement, à partir du mois de juillet, ça y est, le congé va être mis en place. Alors, comme je reçois souvent la question, parce que je ne travaille pas au ministère de la Santé, donc je ne peux pas vous dire.
Changement de carrière.
Si c'est rétroactif. Clairement, ce n'est pas rétroactif. À un moment, il faut arrêter de rêver. Mais oui, à partir du mois de juillet, voilà, bah, chaque enfant qui va naître eh bien, aura la possibilité pour le père d'avoir un congé paternité doublé, donc soit 28 jours, dont 7 jours obligatoires. C'est-à-dire que l'employeur sera obligé de laisser 7 jours le père déjà auprès de sa famille, plus le reste, alors à la suite s'il le souhaite, ou après espacé. Mais en règle générale, moi, en tout cas, j'espère que ça sera à la suite. Mais voilà, le père aura techniquement 28 jours à rester avec sa famille. 28 jours, ça fait un petit peu moins d'un mois.
Parce que c'est ça 28 jours ouvrés, ou parce que c'était ça aussi le problème avec les 11 jours. Parce que les 11 jours, ce n'est pas des 11 jours ouvrés, c'est des 11 jours consécutifs.
C'est ça. Alors, c'est un vrai calcul qui est un micmac qui représente très bien notre administration en France. Alors, je ne ferai pas le détail ici parce que je l'ai en tête, mais il me faut un tableur pour t'expliquer exactement le truc. Mais voilà, effectivement, il y a cette histoire de jours ouvrés. Alors, si j'ai un conseil, si vous voulez avoir la totalité de vos jours, n'accouchez pas un week-end.
Le lundi,
accouchez
c'est bien.
Un dimanche soir, un dimanche. Ou un lundi matin. Et ça sera parfait. Alors, je ne sais pas, démerdez-vous, faites comme vous avez envie. Mais voilà, non, c'est un peu un micmac, le truc. Mais j'espère que le plus possible, les gens puissent avoir des congés. Prenez vos vacances, prenez vos RTT qui vous restent, demandez à votre employeur. Et surtout, là, je parle au père directement, au conjoint, même aux gens qui adoptent. Parce que les gens qui adoptent n'adoptent pas forcément des bébés, ils adoptent aussi parfois déjà des enfants. Tout a une importance. Tout a une importance. Le temps a une importance. Prenez le maximum que vous pouvez prendre. Je sais qu'il y a déjà des entreprises en France qui donnent plus que ce qui est donné déjà par l'État et qu'ils donnaient déjà avant. Renseignez-vous hein, dans vos collectivités, là où vous travaillez, ce que vous avez le droit. Renseignez-vous avant, c'est mieux. N'attendez pas le dernier jour parce que voilà, c'est vite fait le truc à se faire un peu avoir. Non, c'est il faut prendre le temps pour avoir du temps justement. Et donc à partir du mois de juillet, eh bien les papas auront la chance, pour moi c'est une chance, de pouvoir rester plus longtemps chez eux et c'est tant mieux. C'est une très bonne chose.
Ouais. C'est clair. Je vais juste te poser une dernière question avant de terminer. Oui. Ta fille grandit aujourd'hui, ce n'est plus un tout petit bébé. Fait quoi d'être le papa d'un enfant qui grandit ?
Ah, ça fait quoi ? Ça fait. Alors, il y en a qui diraient ça fait pousser les cheveux blancs, mais moi, je n'ai pas de cheveux. Donc, voilà.
Les poils de barbe, peut-être.
Ça fait tomber les cheveux, ben non, j'en ai pas non plus. Ça fait quoi ? Alors, il y a un doux mélange. En fait, c'est une douce claque. C'est une douce petite claque. C'est une. Tu vois, je l'ai inscrit à l'école il y a maintenant 15 jours. Et quand je suis sorti, j'ai eu une bouffée d'émotion terrible. Qui était un mélange de merde, elle grandit, et d'un côté, tant mieux, parce que ça veut dire qu'elle évolue, elle est à l'école, elle était, parce que nous avons fait le choix de l'inscrire à l'école, par rapport à notre métier, on ne peut pas faire l'éducation, l'instruction en famille, mais
tu n'as pas à justifier de ça, hein, parce que ça aussi, je crois que...
Je précise qu'il existe. Oui. Je sais qu'il existe plusieurs alternatives à l'éducation. Et donc, moi, je l'ai dit il n'y a pas longtemps et je le redis encore. Nous avons fait le choix de l'école parce que professionnellement, on ne pouvait pas faire autrement. Et je ne sais même pas si j'aurais fait l'IUF, mais je me suis renseigné sur le sujet. Et
donc, c'est un vrai choix. Encore une fois, c'est un vrai choix.
Oui, tout à fait. Et quand on est sorti de l'école, voilà, je te dis, j'ai eu cette bouffée d'émotion de me dire, elle est déjà très à l'aise. Elle connaît cet environnement de collectivité parce qu'elle est déjà en crèche et c'est doux de la voir grandir parce que c'est magnifique, elle nous surprend de jour en jour et à côté de ça je me dis ça y est, ça m'échappe déjà et pourtant la réalité c'est que finalement il n'y a pas grand chose qui m'a échappé durant ces 2 ans et demi déjà parce que je suis resté très longtemps à la maison. Et que je loupe rien avec elle, on fait tout avec elle. Elle participe à tout à la maison avec nous et malgré tout, c'est vrai quand on entend souvent les parents dire attention hein, ça grandit vite. Et même si on te le dit, en fait c'est la réalité, c'est ça, c'est que oui, ça grandit vite. Mais je suis très très fier déjà de ce qu'elle est et de ce qu'elle va faire et de ce qu'elle fera, qu'importe. Mais je sais pas. Je te dis, c'est une douce claque pour moi. C'est, voilà.
Tu as envie de pouponner à nouveau?
Oui. Bah oui, je vais pas mentir. Hein. On aimerait bien pouponner de nouveau quand notre choix sera fait. D'agrandir la famille, eh bien, le moment sera le venu. Tout de suite, c'est vrai que nous, alors c'est pas égoïste, hein, mais nous profitons vraiment de Rosalie, hein, vraiment. On a profité déjà 2 ans et demi et c'est un doux partage. Et que quand on sentira le moment où on aura envie de partager encore plus, eh bien, on mettra le pied à l'étrier, mais pour le moment, on continue comme ça. Mais vraiment, oui, j'ai encore envie de pouponner parce que ce que j'ai appris durant les premières années de Rosalie ne sera plus à apprendre et j'apprendrai encore d'autres trucs et je ferai certainement peut-être même différemment sur pas mal de choses. J'écouterai moins certaines bêtises, j'aurai encore plus confiance en moi et ça va chier. Ça va chier des bulles. Non, je vais te dire,
super façon de clôturer.
Voilà, si on peut terminer comme ça, parce que faut pas. Voilà, les gens ne me connaissent pas, m'ont peut-être pas vu en vrai, mais tu vois une armoire normande, tu me mets à côté, tu te dis putain, il y a 2 armoires normandes, tu vois. Et ouais, parce que c'est une super aventure. Et j'ai pas envie d'y penser, mais je suis déjà triste à l'idée de me dire un jour j'aurai plus d'enfants. Sur un moment, je vais arrêter quand même, tu vois, j'ai une maison, elle est grande, mais.
T'aimerais une famille nombreuse ?
Oui.
Ouais.
Alors, nombreuse, attends. À partir de 2, c'est nombreux pour moi.
Ah, d'accord.
Mais non, je pense qu'une fois qu'on aura rempli le berlingot, donc c'est-à-dire maximum 3 à l'arrière, ça sera déjà pas mal.
Ouais.
Mais oui, c'est le rêve d'avoir une famille, une grande famille avec laquelle on puisse partager plein de choses.
Trop bien. Bah, merci beaucoup, Fred. C'était un super échange, tout aussi qualitatif que la première fois.
C'est gentil.
Si on veut te suivre, maintenant que tu es une superstar d'Instagram, par où ça se passe ?
Dans la rue, vous pouvez me suivre dans la rue, mais attention, si je vous chope, je me retourne, non, vous ne me suivez pas dans la rue.
Et sur les réseaux, ça se passe par où ?
Eh bien, sur les réseaux, c'est sur mon compte Instagram, parce que je ne suis que sur Instagram. Je n'ai pas Twitter, je n'ai pas Facebook. Sur mon compte Instagram qui s'appelle Vieux Machin Bidule, tout attaché.
Super. Bah, merci beaucoup, Fred. C'était top d'échanger encore avec toi.
Avec plaisir, Élise.
Et puis à bientôt.
À très bientôt.
J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Un merci tout spécial à Pauline qui soutient Prenons un Café ce mois-ci. Pour faire comme elle, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.